Le président français Emmanuel Macron a plaidé samedi au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Ebrahim Raisi, pour un retour à l'accord de Vienne sur le nucléaire, a annoncé à l'Élysée dans un communiqué. Le chef de l'État a réitéré sa conviction qu'une solution visant à revenir à sa pleine mise en œuvre était encore possible, mais qu'elle devait pour cela intervenir dans les plus brefs délais, précise le communiqué. Pourquoi la France frappe-t-elle à la porte de l'Iran? Où en est la France dans ses politiques vis-à-vis de l'Iran?
De la France, je dirais, c'est un pays qui est devenu le subsidiaire des États-Unis, c'est-à-dire ce que disent les États-Unis sera accepté par la France. C'est aussi simple que cela. Alors, de temps à autre, on a l'impression que la France fait des démarches ou en tout cas prend des initiatives, mais le problème, c'est que ces initiatives-là fait passer la France, en cas de non-aboutissement, pour ce qu'on appelle ici le télégraphiste des États-Unis. Ce qui n'est pas confortable pour un Français de le dire, parce que on a envie de dire que son pays compte, que son pays a la capacité de prendre des décisions et a la capacité de les faire exécuter et les faire appliquer par les pays avec lesquels nous signons des accords. Il se trouve que la France fait partie de l'accord sur le nucléaire iranien. Sauf que, à partir du moment où les Américains, dans la personne de M. Trump, se sont retirés, évidemment, tout est devenu paralysé. Moi, j'aurais imaginé que les Européens allaient prendre une initiative réelle pour ne serait-ce qu'appliquer les préconisations de l'ONU et mettre à la rigueur les sanctions américaines de côté, en disant ben, les Américains ont pris des décisions qui dépassent ce que disent les décisions de l'ONU, et ben, on les met entre guillemets de côté. La France et les Européens, tous les Européens confondus, n'ont pas pris une telle position, alors qu'on s'attendait à ce que quand il y a un accord, ce qu'on appelle les 5 plus 1, qu'au moins les 5 continuent de respecter leur propre signature. La France ne l'a pas respecté, malgré les déclarations d'intention qui ont été faites à l'époque. Mais après, on a compris qu'ils étaient totalement paralysés par la puissance des États-Unis, en tout cas par le diktat des États-Unis. Et l'ensemble des pays du monde, d'ailleurs, était médusé par cette attitude hautaine, dictatoriale de la part du président américain. Mais il a rappelé en quelque sorte aux Européens qu'il est le maître du jeu et ils ne pourront rien faire sans lui. Maintenant, on peut dire dont acte. Là, maintenant, on a l'impression que tout recommence à nouveau parce que, à un moment donné, on a cru qu'on était à la veille de re-signer un accord qui pouvait satisfaire tout le monde. Et puis finalement, on a constaté tout simplement que la mauvaise intention des États-Unis, en tout cas les intentions peu louables des États-Unis, conduisait ipso facto à la paralysie de l'accord qui serait nouvellement signé. Soit en raison des liens de l'Iran avec d'autres pays ou avec des organisations qui seraient qualifiées par les États-Unis comme terroristes ou par rapport à la politique iranienne ou même par rapport à ce qu'on appelle les décisions souveraines de l'Iran, aussi bien concernant son armement, son développement, ses alliances et son rôle stratégique dans la région. Et nous avions cru avec le premier accord, que ces questions-là étaient mises de côté parce que, évidemment, ce sont deux choses qui ne pouvaient pas se mélanger. Il y avait l'accord sur le nucléaire qui concernait uniquement l'activité nucléaire civile de l'Iran. Et puis finalement, on a constaté que les Américains, depuis le début, à l'époque de Kerry, voulaient tout impliquer dedans. Et il y a un accord, je dirais, tacite entre Kerry et M. Zarif pour dire que ces questions-là seraient traitées plus tard. Et puis finalement, on a compris que les Américains n'avaient que, je dirais, que peu d'égards à l'égard de leur propre signature, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout dénoncé du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, les annonces amicales à l'égard de l'Iran de la part d'un certain nombre de pays européens et par rapport à l'IEA, on constate qu'on essaye de dire que finalement l'Iran ne respecte pas ses engagements et c'est la raison pour laquelle tout patine. La réalité est que quand on veut abattre son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et évidemment, le chien des Européens et des États-Unis, c'est l'accord sur le nucléaire. À ce moment-là, on dit, eh ben, il y en a un qui ne respecte pas ses engagements, c'est pour cela que tout est paralysé. La réalité, c'est que les États-Unis ne veulent pas de cet accord-là, ils veulent tout simplement, encore une fois, revenir sur ce qui a été conclu, c'est-à-dire revenir sur la portée de cet accord. Est-ce que ça doit concerner uniquement le nucléaire civil et les mesures de contrôle et en contrepartie la levée de toutes les sanctions et notamment les sanctions financières ou on continue comme cela se passe actuellement? Et l'Iran, avec la puissance qu'elle a développée, bien entendu, n'a pas l'intention de renoncer à ses acquis obtenus de manière souveraine. Et évidemment, cette question-là n'est pas négociable pour les Iraniens. Et toutes ces explications avaient déjà été fournies aux Français et à l'ensemble du monde, si j'ose dire. Et là, il a fallu que le président Raisi recommence cette explication de texte parce que si cette entrevue a duré 2 heures, c'est à mon avis, il y a quelque part un rappel historique de ce qui s'est passé et puis en même temps, la volonté des uns et des autres et le doute iranien par rapport à la réalité des intentions des partenaires dans cet accord. Quand on conclut un accord, on parle de partenaires, même si ces partenaires s'avèrent être je vais le dire comme je le pense, de mauvaise foi, parce qu'en réalité, ils ont toujours une idée derrière la tête. Et M. Lavrov, à un moment donné, est intervenu justement par rapport à la question des relations entre l'Iran et la Russie, pour éviter que les relations entre l'Iran et la Russie ne soient l'obstacle à l'exécution de l'accord. Et puis finalement, on a cru qu'on était arrivé, et puis tous les jours, on en découvre d'autres, des obstacles qui empêchent la mise en place de cet accord, en tout cas son exécution, de bonne foi, et qu'il soit conclu avec des intentions réelles d'aller dans le sens de l'apaisement et surtout de la prise de confiance des deux côtés. Aujourd'hui, la confiance des Iraniens vis-à-vis de leurs partenaires se trouve diminuée et surtout eu égard aux différentes déclarations qui ont été faites par, si j'ose dire, les acteurs ici au Lin et notamment par les États-Unis. Et la tension aujourd'hui en Ukraine conduit apparemment les États-Unis à mettre de côté cette histoire d'accord sur le nucléaire et essaie de détourner le regard en disant que les Iraniens finiront par lâcher prise. Et c'est mal connaître la République islamique d'Iran. C'est ce pays qui résiste depuis plus de 40 ans aux sanctions de différentes sortes et qui sont, qui sont allés très loin pour même aller dans le sens d'affamer la population, de faire des troubles au sein du pays, parce qu'on se dit, à un moment donné, la population va se révolter contre les gouvernants et contre les institutions de la République islamique d'Iran. Puis finalement, rien ne s'est passé pour une raison simple, parce qu'il y a une confiance totale entre la population et les gouvernants, et le peuple iranien est suffisamment adulte et intelligent pour comprendre que le nœud se trouve dans l'Occident et pas du côté de l'Iran. L'Iran a ouvert ses portes, si j'ose dire, au contrôle, a accepté que son installation soit visitée par des observateurs, a accepté de se soumettre même à des contrôles continus à travers les caméras, sauf que cela ne suffit pas parce qu'en réalité, il y a toujours des idées derrière la tête pour faire plier l'Iran dans d'autres domaines, et notamment la question syrienne, la question du Yémen, la question de la normalisation avec l'entité sioniste, ainsi de suite. La position de l'Iran reste une position fondamentale parce que c'est une question de morale, c'est une question de conception de la politique et c'est une question, si j'ose dire, de conception des relations internationales. On n'impose pas par la force ou par la pression ou par l'asservissement des règles ou des sanctions sur les autres pays Et les autres pays, dès lors qu'ils jouissent de leur souveraineté, bien entendu, ne peuvent pas accepter de tels diktats. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre très particulier, ce cadre qui veut que les Européens et les Américains comprennent une bonne fois pour toutes qu'un accord avec l'Iran, c'est un accord avec l'Iran sur uniquement le nucléaire iranien. Ça n'ira pas au-delà, ça ne servira les intérêts de personne d'autre que des partenaires dans cet accord-là. Le fait de vouloir impliquer les intérêts d'Israéliens dans cette affaire-là, bien entendu, sera là. Au contraire, on constate que l'Europe est en position de faiblesse. Les Américains se trouvent en quelque sorte sur le qui-vive. Est-ce que ils doivent rentrer en guerre directement avec la Russie et avec l'axe qui se constitue aujourd'hui derrière la Russie ou avec la Russie, parce que la Chine n'est pas loin, l'Iran est déjà dedans, mais il y a encore d'autres pays en Afrique, en Amérique latine, qui sont considérés comme des véritables partenaires. Il suffit de regarder la carte du monde pour voir qui sont ceux qui sont positionnés derrière les États-Unis et ceux qui n'ont pas voulu s'impliquer dans ce qui se passe. Nous constatons que 80%, pour ne pas dire plus, du monde ne veut pas s'impliquer dans les guerres américaines, ne veut pas s'impliquer dans les tensions provoquées par les Américains, ne veulent pas s'impliquer dans ce qu'on appelle le règlement de compte que les Américains essaient d'imposer à la résistance. Et quand je dis la résistance, c'est-à-dire l'ensemble de la résistance du côté iranien, mais également ce que j'appellerais moi l'axe de la résistance mondiale, qui refuse le diktat des Américains. Et vous avez à ce moment-là les Russes, les Chinois, mais des pays d'Amérique latine, des pays africains, et qui aujourd'hui se trouvent dans des positions plutôt avancées et qui se développent davantage parce qu'ils sont encouragés par les victoires réalisées par l'axe de la résistance et constatent que on sait dire non et on peut dire non à l'impérialisme américain, à l'impérialisme occidental. Et aujourd'hui, c'est un nouveau visage qui est en train de se dessiner du monde je dirais, qui existe. Aujourd'hui, le monde ne veut plus être monopolaire, c'est-à-dire sous la bannière des États-Unis. Le monde veut qu'il y ait un monde multilatéral où chacun a son mot à dire, chacun doit s'exprimer, chacun doit défendre ses intérêts, chacun doit défendre sa souveraineté et son indépendance afin que même les économies puissent se libérer du diktat du dollar et de cette espèce d'ordre mondial imposé par les Américains sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan même médical, parce qu'aujourd'hui, regardez voir la circulation des populations à travers le monde est imposée par les Américains à travers ces règles sanitaires qui s'avèrent non indispensables pour ne pas dire farfelues. Et aujourd'hui, ces échanges-là se trouvent uniquement entre les pays qui ne veulent pas s'impliquer avec les États-Unis. Quand vous prenez tout ce schéma-là, vous comprendrez que la résistance est importante et la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont les Américains et leurs alliés qui se trouvent dans la situation de peur, alors qu'ils avaient cru à un moment donné qu'ils allaient gagner vite fait, bien fait, contre la Russie, contre la Chine et contre l'axe de la résistance. Aujourd'hui, l'ensemble de ces axes-là, l'ensemble de ces puissances, l'ensemble de ces forces-là ont montré leur capacité de résister et, au contraire, sont en train de développer leurs relations multilatérales et vont pouvoir développer même un nouveau système financier, économique mondial qui va mettre pratiquement de côté le système américain et l'ordre mondial américain et qui va devenir juste l'ordre des Occidentaux. Et même, à mon sens, à terme, les Occidentaux finiront par lâcher. Raison pour laquelle, il y a quelques jours, le président Orban, le président, pardon, de la Hongrie, pardon, voilà, je retrouve mes mots, a rappelé que c'est l'Europe qui se trouve à genoux. En raison de quoi? En raison justement de cette guerre menée par les Américains et par l'OTAN contre la Russie. Et à un moment donné, il faudrait que ces pays-là fassent marche arrière et aillent dans un sens qui va dans le sens de la paix dans le monde, qui va dans le sens des baisses de tension. La baisse de tension ne peut venir que d'un côté aujourd'hui, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés. Et les Iraniens ont intérêt et ont compris que le dialogue est toujours ouvert, mais ce dialogue ne veut pas dire lâcher prise par rapport au droit de ce pays-là, à sa souveraineté, à ses décisions unilatérales et à sa puissance et à ses capacités d'alliance avec le monde entier, pas simplement avec les Occidentaux, parce que les Occidentaux ne sont plus le centre du monde. Aujourd'hui, le centre du monde s'est éparpillé et aujourd'hui, le centre du monde est devenu beaucoup plus, je dirais, plus étalé, si je sur cette carte du monde et qui démontre aujourd'hui dans sa forme actuelle qu'il y a de l'espoir qui se décide et ce nouveau monde va être celui de l'acte de la résistance et qui va développer autour de lui des puissances régionales en Amérique latine, en Asie et qui vont avoir dans cette nouvelle vision et dans cette nouvelle pratique de ce monde qui se décide.